Avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, ça? La Coupe du Monde, en 2010, la Coupe du Monde de foot, en 2010, en Afrique du Sud. Maintenant, je suis sûr que ça vous rappelle un certain nombre de choses. Et en fait, voilà le titre, un extrait de titre de journal. Fiasco des Bleus à Knysna. Et fiasco, pas parce que les résultats étaient mauvais, même si c'était le cas, mais surtout parce que, en raison du mauvais comportement et de la mauvaise attitude des joueurs et de leur encadrement. La France a été la risée de bien des pays, et peut-être la honte, peut-être que nous avons un petit peu honte de cette image qui était donnée de nous. Et en effet, parce que, voilà, lorsque l'équipe de France est quelque part, elle représente la France. Et donc, on attend de ses membres un comportement exemplaire. Mais voilà, pour de nombreuses personnes, ceux qui étaient là-bas n'étaient pas dignes de représenter la France. Parmi un certain nombre de choses qui ont été écrites sur eux, certains ont comparé ces joueurs à des enfants trop gâtés et non pas à des adultes responsables et conscients de l'honneur qui leur avait été accordé et de l'image qu'ils représentaient pour toute une nation. Une équipe, quelle qu'elle soit, doit représenter dignement ce qu'elle représente. Notre comportement doit être à la hauteur de l'équipe dont nous faisons partie. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi les actualités cette semaine, mais le ministère de l'Intérieur a dévoilé son projet de sortir un code de déontologie pour la police et la gendarmerie. Et entre autres, ce code dirait ceci: policiers et gendarmes sont placés au service de la population. Leur relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie. Ils se comportent en toutes circonstances de manière exemplaire. Ils doivent inspirer respect et considération. Et ça, c'est très bien. Par son comportement, par ses paroles, par ses actes, un policier ou un gendarme doit être exemplaire et inspirer le respect et la considération de la population. Une équipe doit être digne de ce qu'elle représente. Une équipe doit susciter le respect et la considération. Mais aussi une équipe, en principe, lorsqu'il y a une équipe, elle a un but, un objectif. Et une équipe, pour gagner, doit aussi se montrer unie. Ses membres doivent être solidaires les uns des autres et poursuivre le même but. Je vais vous montrer un petit film, c'est très court. Regardez bien. Voilà. Une équipe solidaire est une équipe qui gagne. Une équipe qui poursuit les mêmes buts est une équipe qui peut faire de grandes choses. Eh bien, dans la Bible, il est souvent question d'équipe, ou plus exactement, plus précisément, il est question de peuple, de famille, de corps, d'église. Le peuple de Dieu, la famille de Dieu, le corps de Christ et sa manifestation en un lieu donné, l'église locale. Et Dieu, dans sa parole, il y a de nombreuses reprises, nous dit de quelle manière nous devrions nous comporter. Nous, qui faisons partie de son peuple, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous qui faisons partie de son corps, nous qui faisons partie d'une église locale. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 3 de la lettre aux Colossiens. Alors, si vous avez une traduction comme celle-ci, donc c'est les Bibles qui sont mises à votre disposition, ce sera la page 775. Alors, le but de la lettre aux Colossiens et de combattre les erreurs qui se trouvent dans l'Église, et de montrer que les croyants trouvent en Christ la réponse à tous leurs besoins. Et le chapitre 3 en particulier met en lumière en quoi consiste le véritable comportement chrétien. Et je lirai les 17 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous avez été dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ en tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantés pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Si on observe ce texte dans son ensemble, ce qui ressort de tout cela, c'est que tout l'argumentaire de Paul repose sur une chose, sur notre position et sur notre identité en Christ. Paul ne se contente pas de dire de quelle manière nous devrions nous comporter, il nous dit également pourquoi. Mais les raisons qu'il donne ne sont pas des raisons d'ordre intellectuel, comme par exemple « comportez-vous de telle manière parce que c'est le mieux pour vous ». Les raisons qu'il donne sont des raisons spirituelles qui reposent sur notre position, sur notre identité en Christ. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Il nous amène à considérer cela, à nous poser cette question. Est-ce que nous sommes bien ressuscités avec Christ? Et si jamais nous pouvons dire oui à cela, alors il va développer un certain nombre de choses. Mais c'est en étant conscient que nous sommes avec Christ que nous devons considérer notre vie. Verset 12. En tant qu'être choisi par Dieu. C'est en étant conscient que nous avons été choisis par Dieu que nous devons aborder nos relations avec nos frères et sœurs. Être conscient de notre identité, de notre position en Christ, être conscient de l'équipe dont nous faisons partie, va déterminer notre manière de vivre et de nous comporter. Et tout d'abord, nous devons nous rappeler que nous sommes ressuscités avec Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Est-ce que nous sommes ressuscités avec Christ? Est-ce que nous lui avons bien remis notre vie afin qu'il meure à notre place en raison de nos péchés? Est-ce que Jésus est bien mort et ressuscité pour nous? Oui ou non? Est-ce que vous êtes au clair sur cette question? Est-ce que Jésus est ressuscité pour vous? Est-ce que vous êtes ressuscité avec Christ? Quels sont ceux qui peuvent dire oui? Ah, petit à petit, ça se lève, ça me rassure un peu. Eh bien, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, alors nous sommes donc invités, exhortés à demeurer le plus près possible de lui. Rechercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Même si nous faisons encore partie, enfin même si nous vivons encore dans ce monde, nous n'en faisons plus partie dans le sens où nous avons maintenant une autre maison. Nous appartenons à un autre royaume, celui de Christ. Et par conséquent, nous devons investir pour la vie éternelle, pour ce qui est vrai, ce qui est durable, et non pas miser sur les choses futiles et provisoires de ce monde. Nous devons également croire ce que Dieu nous dit et ne pas accorder le crédit à ce que cette société nous propose. À quoi nous attachons-nous pour régler notre comportement, nos comportements les uns avec les autres? À quoi est-ce qu'on s'attache? Eh bien, si nous sommes avec Christ, il nous est dit « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » À quoi est-ce qu'on s'attache? Nous devons nous attacher aux réalités révélées par la parole de Dieu, celles qui viennent d'en haut. Parce que nous avons donné notre vie au Seigneur, afin que nous puissions ressusciter avec lui, eh bien alors, notre vie ne nous appartient plus. Est-ce qu'on est bien conscient de ça? Si nous appartenons à Jésus, c'est que nous lui avons donné notre vie. Par conséquent, notre vie ne nous appartient plus. On ne peut plus vivre comme bon nous semble, parce que maintenant, nous appartenons à Christ. Nous devons quelque part nous considérer comme morts. Vous avez connu la mort. Mais bien sûr, cela poursuit. Mais maintenant, notre vie est en Dieu. La véritable source de notre vie est en Dieu. Alors cessons donc d'alimenter notre vieille nature pécheresse et rebelle à Dieu. Il nous est dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Renoncez à tout cela. Il a une série d'exemples de péchés énumérés. Et parfois, malheureusement, par nos choix de vie, nous entretenons tout ça. Et au lieu de nous nourrir de cette nouvelle vie de Christ qui est en nous, nous continuons à alimenter notre vieille nature. Et après, on se dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Qu'est-ce qui se passe? Nous devons demeurer attachés en Christ. Nous devons rechercher les réalités d'en haut. Nous devons faire mourir en nous ce qui est terrestre parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Ça veut dire que notre vie maintenant est en Christ. Et parce que Jésus est vivant et parce que nous vivons maintenant en lui, alors nous avons reçu, et ça c'est quelque chose de merveilleux, nous avons reçu une nouvelle nature afin de mener une nouvelle vie. Et cette nouvelle nature nous a été accordée en Christ, mais nous, de notre côté, nous devons nous en revêtir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Parce que nous sommes ressuscités avec Christ, parce que nous avons reçu son esprit, parce que nous avons reçu une nouvelle nature, celle d'enfant de Dieu, eh bien cette nouvelle nature, nous devons lui permettre de se développer en nous. Et de quelle manière? En demeurant attachés à Christ et en renonçant à suivre notre nouvelle nature, nous pouvons contribuer par nos choix de vie, par ce à quoi nous sommes attachés, nous contribuons nous-mêmes à notre manière de grandir, à notre manière de nous enraciner. Est-ce qu'on s'enracine dans ce monde ou est-ce qu'on se nourrit auprès du Seigneur? Nous voyons dans ce passage que la conscience de notre identité en Christ va nous amener, ou devrait nous amener, à adopter un comportement nouveau dans notre vie de tous les jours. Mais la prise de conscience de notre identité en Christ doit aussi nous amener à vivre des relations nouvelles dans l'Église. Parce que le fait que notre nouvelle identité soit en Christ fait que maintenant, nous faisons partie de la même équipe, du même peuple, du même corps, de la même Église. Et puisque nous sommes ressuscités avec Christ, puisque nous sommes tous ressuscités avec Christ, il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclave ni homme libre. Même si dans le monde dans lequel nous vivons, dans notre société, même s'il y a des oppositions entre les personnes, et même s'il y a des distinctions également d'honneur et de valeur, au sein de l'Église, ces distinctions s'abolissent en raison de notre position en Christ. Parce que Christ est en tout et en tous. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que nous avons tous la même dignité. On ne peut pas se dire que quelqu'un a plus de valeur qu'un autre. Il n'y a plus d'opposition parce que nous appartenons au même peuple, au même corps. Après avoir dit cela, Paul peut ensuite nous exposer plus précisément le plan de Dieu pour notre comportement réciproque au sein de l'Église. Et là aussi, son argumentaire va reposer sur une chose, sur notre prise de conscience de notre position et de notre identité en Christ. Verset 12, nous devons réfléchir à cela en tant qu'être choisi par Dieu. C'est en tant qu'être choisi par Dieu qu'il s'adresse à nous, c'est en tant que saint, c'est en tant que bien-aimé de Dieu. C'est parce que nous sommes des êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés, qu'il peut alors nous adresser cette exhortation. Revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà les grandes lignes de ce que nous devons vivre. Mais Paul, qui est quelqu'un de pratique, met en lumière trois manières concrètes de vivre cela dans l'Église. Tout d'abord, supportons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous réciproquement. Revêtons-nous de l'amour. Trois comportements réciproques que nous devrions vivre au sein de l'Église. Et je dirais même trois comportements réciproques que nous devrions impérativement vivre dans l'Église. Parce que ces comportements ne sont que les conséquences de notre identité et de notre position en Christ. Tout d'abord, en tant qu'être choisi par Dieu, supportons-nous les uns les autres. C'est parce que nous-mêmes nous avons été choisis par Dieu pour lui appartenir, qu'alors nous devons accepter, supporter toutes les autres personnes qui, comme nous, ont été choisis par Dieu. Qui d'entre nous peut dire ici que c'est grâce à ses mérites personnels qu'il a rejoint le peuple de Dieu? Qui d'entre nous peut dire que s'il fait partie du peuple de Dieu, s'il fait partie de l'Église, c'est parce qu'il le méritait? Personne ne peut dire cela. Si c'était sur la base de nos mérites personnels que l'on intégrait le peuple de Dieu, aucun de nous, on doit être conscient de ça, hein, aucun de nous n'en ferait partie. nous souvenir que nous-mêmes, nous ne méritons pas de faire partie du peuple de Dieu, mais que malgré nos imperfections, nous avons été choisis par Dieu, doit nous amener alors à une attitude de grâce. Tout comme je ne suis pas parfait, mes autres frères et sœurs ne sont pas parfaits non plus. Tout comme Dieu supporte mes imperfections, et tout comme les autres également doivent supporter mes imperfections, alors moi aussi, je dois supporter les leurs. Nous espérons que le Seigneur va toucher des cœurs par l'intermédiaire du parcours Alpha. Eh bien, peut-être que suite à cela, de nouvelles personnes vont arriver dans l'Église, et des personnes qui ne vont pas se comporter comme nous, des personnes qui ne vont pas parler ou prier comme nous, elles vont peut-être être tellement différentes de nous que cela va peut-être même nous déranger, nous gêner et peut-être même, vous savez quoi, nous déplaire. Et quelle devra alors être notre attitude? Nous devrons les supporter, comme il faudra d'ailleurs également qu'elles nous supportent. Et pourquoi est-ce qu'on devra se supporter réciproquement? Parce que tous nous avons été choisis par Dieu pour faire partie de son Église. Ce n'est pas nous qui choisissons les autres. C'est Dieu qui choisit ceux qui lui appartiennent. Et ça nous amène aussi à la confiance. Parfois, vous savez, quand on forme une équipe, on essaye de s'entourer des personnes qui nous semblent les meilleures pour l'objectif qu'on veut atteindre. Ça, on a tous fait ça en tant qu'enfant. Voilà, on choisit, on pioche. Puis ceux qui ne nous intéressent pas, on n'en a pas envie. On voudrait plutôt que ce soit à l'autre camp qui les prenne. Là, ce n'est pas nous qui choisissons nos équipiers, parce que c'est Dieu qui choisit. Et donc, nous ne sommes là que pour valider le choix de Dieu. Et cela doit nous amener à supporter les autres, même si jamais, peut-être, ils nous dérangent. Alors, vous vous en doutez, hein, j'espère. Supporter l'autre n'est qu'un premier pas. Ce serait bien triste si, dans une église, on se contentait de se supporter les uns les autres. De par notre identité, notre position en Christ, nous devons également nous pardonner réciproquement. En tant qu'être saint, pardonnons-nous réciproquement. Parce que nous sommes en Christ et que Jésus est mort à notre place, alors aux yeux de Dieu, nous sommes saints. C'est-à-dire que Dieu nous a mis à part pour lui. C'est-à-dire que nous sommes habilités à nous approcher de Dieu pour lui rendre un culte, c'est-à-dire que nous sommes considérés par Dieu comme sans défaut. Dieu ne se souvient plus de notre péché parce que Dieu nous a pardonnés. Nous avons été sanctifiés par Jésus. Puisque nous-mêmes nous sommes saints aux yeux de Dieu, puisque tous nos frères et sœurs sont également saints aux yeux de Dieu, quelle devrait alors être notre attitude dans l'Église? Nous pardonner réciproquement. Pourquoi? Parce que nous sommes saints. Tout comme Christ nous a pardonnés, pardonnons-nous, nous aussi. Comment pourrions-nous ne pas pardonner à notre frère ou à notre sœur alors que nous-mêmes, nous avons bénéficié du pardon de Dieu? Et rappelons-nous que, en tout cas, notre faute personnelle était si grande que ce pardon a nécessité la mort de Jésus. Est-ce que la faute de mon frère ou de ma sœur contre moi mérite plus que la mort? Est-ce que donc j'ai une raison valable de ne pas lui pardonner alors que moi-même j'ai été pardonné d'une faute qui méritait la mort? Et Dieu, dans sa parole, souligne une chose. Ce que Dieu a fait pour nous, nous devons, en retour, le faire également pour les autres. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. C'est un choix de vie, hein. Est-ce qu'on se met sous la grâce dont nous bénéficions, ou est-ce qu'on décide de rester sous la loi? Mais si jamais nous faisons le choix de la loi pour les autres, sachons que nous-mêmes, c'est le choix que nous faisons pour nous-mêmes. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Notre passage attire également notre attention sur un point. La responsabilité de la faute n'est pas toujours du côté de l'autre. Il nous arrive, nous aussi, vous savez quoi, il nous arrive de pécher contre nos frères et sœurs. C'est pour cela qu'il nous est demandé de nous pardonner réciproquement, de nous pardonner mutuellement, de nous pardonner les uns les autres, selon les traductions que nous avons. Le pardon est au cœur de notre relation avec Dieu. Le pardon est également au centre de notre vie d'Église. Parce que nous sommes saints sans l'avoir mérité, alors nous devons accorder notre pardon aux autres. Et tous, vous savez, j'ai lu un article cette semaine qui était intéressant, qui disait « Nous sommes tous des chrétiens blessés et nous sommes tous des chrétiens blessants. » Et peut-être que nous-mêmes, nous avons été blessés, peut-être par des paroles malheureuses, des fois. Des fois, il y a des choses qui peuvent nous blesser par des paroles. Peut-être également par une attitude injuste, injuste envers nous. Peut-être même qu'on perçoit qu'il y a un acte qui était injuste. Eh bien, le Seigneur nous demande de pardonner cela. Tout comme nous avons été pardonnés, pardonnons aux autres. Supporter, pardonner est la manifestation de ce qui nous lie à Christ et la manifestation de ce qui nous lie à nos frères et sœurs. Mais il manque encore un lien, qui est le lien de la perfection. Et ce lien, c'est le lien de l'amour. En tant qu'être aimé de Dieu, revêtons-nous de l'amour. L'amour est le lien de la perfection. Nous sommes parfaitement unis à Christ lorsque nous sommes liés aux autres par le lien de l'amour. C'est ce que Jésus disait par exemple en Jean 13, 35. Il disait « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et dans la Bible, aimer, hein, ce n'est pas tellement un sentiment. Sinon, comment pourrions-nous envisager d'aimer même nos ennemis? Aimer, c'est agir en faveur de l'autre. Et aimer, vous savez quoi? Enfin, je suis sûr que vous le savez. Aimer, ce n'est pas toujours facile. Aimer, c'est même parfois difficile, et même parfois très difficile. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous de nous rappeler quelle est notre position et notre identité en Christ. C'est parce que nous sommes aimés de Dieu que nous pouvons en retour aimer les autres. C'est ce qu'il dit également en 1 Jean 4,19. Quant à nous, nous aimons pourquoi? Nous aimons parce qu'il, il s'agit de Christ, nous aimons parce que Christ nous a aimés le premier. Si nous ne savons pas que Christ nous a aimés, il va nous être très difficile d'aimer les gens qui ne sont guère aimables à nos yeux, mais que pourtant nous devons aimer. C'est parce que nous sommes aimés de Dieu et parce que nous savons que nous sommes aimés de lui que nous devenons capables d'aimer. Cet amour de Dieu pour nous, cet amour dont nous bénéficions, nous devons, la Bible nous dit, en revêtir tout ce qui nous lie aux autres. C'est en cela que tout ce qui nous reliera aux autres deviendra un lien de perfection. Lorsque nos paroles par lesquelles nous rentrons en relation avec nos frères et sœurs, lorsque nos paroles seront revêtus d'amour. Est-ce que nos paroles sont toujours revêtues d'amour? Des fois, on lit dans la Bible que la parole de Dieu est une épée. J'ai l'impression que souvent, on se sert plutôt de notre parole comme une épée. Les paroles que nous prononçons, les paroles par lesquelles nous rentrons en relation les uns avec les autres, doivent être revêtues d'amour. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux garder fermée notre bouche. Nos actes doivent être revêtus d'amour. Chacun de nos actes doit être revêtu d'amour. J'aime bien cette description de l'amour. Aimer, ce n'est pas donner à l'autre ce qu'il mérite, mais c'est lui donner ce dont il a besoin. Quelle est la parole d'amour que mon frère ou que ma sœur aurait besoin d'entendre et qui correspondrait à ses besoins? Quelle attitude empreinte d'amour devrais-je manifester envers mon frère ou ma sœur? Quel acte motivé par l'amour pourrais-je faire en faveur de mon frère ou de ma sœur? Voilà des questions que nous devons nous poser avant de parler d'être et d'agir. Parce que nous appartenons au Seigneur, parce que nous appartenons à sa famille, parce que nous appartenons à son corps, parce que nous appartenons à son Église, tout comme nos frères et sœurs, nos comportements réciproques doivent être dignes de ce que nous sommes en Christ. Nos comportements doivent être dignes de notre identité. Nous devons nous supporter les uns les autres, nous devons nous pardonner les uns les autres, nous devons nous revêtir d'amour et être liés aux autres par le lien parfait de l'amour. Et nous devons, en quelque sorte, être des supporters les uns des autres. Pas simplement supporter les autres dans le sens de les tolérer, mais les encourager, être avec eux. Par nos attitudes, nos paroles, nos actes, nous pouvons encourager les autres dans leur marche avec Dieu. Nous pouvons les aider à grandir, nous pouvons les affermir. Que chacun de nous soit conscient de ce que nous sommes en Christ. Aimé par Dieu, ressuscité avec lui, saint, pardonné. Je vous invite à quelques instants de recueillement, de réflexion, pour que chacun puisse se placer devant le Seigneur. Seigneur, aucun de nous ne mérite de faire partie de ton équipe parce qu'aucun de nous n'est qualifié pour y rentrer. Et pourtant, Seigneur, toi, tu nous as choisis pour en faire partie. Donne-nous, Seigneur, de vivre en conformité avec cela, que nous puissions, Seigneur, te représenter dignement, mais que nous puissions demeurer en toi, attachés à toi, conscients de ce que nous sommes en toi, afin que nous puissions les uns et les autres, nous puissions nous supporter, que nous puissions nous pardonner, que nous puissions nous aimer, et également que nous puissions ainsi être un témoignage vivant de ta présence dans nos vies. Apprends-nous, Seigneur, à aimer, à grandir, à te ressembler. Amen.